Nous allons continuer cette matinée de colloque avec M. Jean-Philippe Amard. Alors, je vous présente en quelques mots Jean-Philippe Amard. Mme Renon en a parlé en insistant sur ces chercheurs qui sont la relève de demain. Donc, lourd poids sur ses épaules, mais je suis sûr qu'il saura le relever avec brio. Jean-Philippe Amard a déjà un long parcours derrière lui. Il est en train de rédiger une thèse sur la cantillation biblique, justement, dans les communautés juives parisiennes et peut-être autour de Paris, en tout cas en région parisienne. Et d'autre part, il enseigne et il est chargé de cours en ethnomusicologie à l'université Paris 4 Sorbonne, où il fait un cours aux étudiants sur la musique rituelle. Il m'a précisé de tous les rituels. Vous voyez, c'est un spécialiste. C'est
rare. Pas simplement juif.
Pas simplement juif. Donc on n'a pas tous les jours un spécialiste de tout. Donc je le remercie. Et donc il est doctorant en ethnomusicologie sous la direction du professeur François Picard. Et il va vous parler maintenant de la psalmodie et de la cantillation.
Bonjour, je souhaiterais tout d'abord remercier M. Thierry Vincent, le maire de Saint-Amand-Montrond, ainsi que Mme Marie-Reine Renon pour leur accueil chaleureux et l'organisation de ce colloque. Je suis très honoré d'avoir été invité à participer à cette journée autour de la musique sacrée juive. Après la première intervention de M. Roten, dressant un panorama des traditions vocales juives, je vous propose de nous attarder sur l'une des pratiques les plus anciennes et les plus importantes du rituel juif, à savoir la cantillation biblique. Il s'agit en effet d'une pratique plurimillénaire. Elle apparaît à la même période que la tragédie grecque, c'est-à-dire au 5e siècle avant l'ère chrétienne, et a traversé les époques jusqu'à être toujours pratiquée de nos jours dans les synagogues. Quelle est donc cette pratique rituelle? Le judaïsme place au centre de la révélation divine un texte, la Torah, qui signifie la loi. Il s'agit du message de Dieu dicté à Moïse sur le mont Sinaï. La voix a retenti dans les hauteurs du Sinaï et Moïse en fut le premier interprète. C'est par cette transmission que se crée une alliance entre le Créateur et une collectivité, les Hébreux. Et notamment par ces mots, « Et maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous préservez mon alliance, vous serez pour moi un peuple élu parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Si vous écoutez ma voix, donc, le message et la transmission sont ainsi essentiellement auditifs. La profession de foi du judaïsme, le credo juif, est également du domaine du sonore. Il s'agit de l'incipit d'un verset du Deutéronome, « Écoute Israël, Dieu est notre roi, Dieu est un. » Parole attribuée à Moïse, s'adressant aux enfants d'Israël. « Écoute Israël » répond donc à « Si vous écoutez ma voix de Dieu. » Revenons au texte. La Bible hébraïque comprend trois parties. La Torah, la loi, Nevi'im, les prophètes, Ketuvim, les écrits, hagiographes, partie dans laquelle est inclus le livre des psaumes. Ainsi, pour désigner, tel que je vous l'ai mis en bas, le mot Bible, mot qui n'a pas d'équivalent exact en hébreu, on utilise l'acronyme Tanakh. Le premier ensemble, la Torah, est appelé également le Pentateuque, vous le savez, car il est composé de cinq livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, qui est une vaste fresque historique s'étendant de l'origine du monde à la mort de Moïse. L'institution de la lecture publique hebdomadaire de la Torah a été décidée, M. Roten l'a rappelé, après l'exil de Babylone par Ezra le scribe, à son retour à Jérusalem au 5e siècle avant l'ère chrétienne. Cette lecture fait partie de l'office matinal du samedi, Yom Shabbat, le jour du repos. Elle est ainsi lue par section hebdomadaire, on appelle des péricopes, en hébreu paracha, suivant un cycle annuel établi sur le calendrier hébraïque. Ezra prescrit également la lecture d'une partie de la péricope suivante, le lundi et le jeudi. Il y a 54 sections hebdomadaires de la Torah. Le cycle de lecture commence et se termine à Simchat Torah, une fête qui marque la fin du cycle de lecture et du début du nouveau cycle, qui cette année se déroulera le 17 octobre prochain. Le calendrier hébraïque, qui est l'unisolaire, ayant de 50 à 54 semaines, il arrive, certaines années, que soient lues deux péricopes en une semaine. Après la destruction du second temple de Jérusalem, on l'a vu tout à l'heure en l'an 70, la synagogue devient une institution cultuelle où les fidèles se réunissent deux fois par jour pour prier et lire la Torah trois fois par semaine. Donc, on parle de lecture publique, solennelle. Or, le texte de la Torah ne doit pas être lu, mais cantilé. Je reviendrai sur le mot cantillation dans un instant. Disons pour le moment qu'elle doit être chantée. Si l'on regarde un rouleau de la Torah, on constate que le texte est dépourvu de tout signe, qu'il soit de cantillation, de ponctuation ou de vocalisation. Il n'y a pas de voyelle, il ne s'agit que de consonnes. Pour lire et chanter la Torah, il faut donc connaître la tradition de vocalisation, de ponctuation et de récitation chantée du texte sacré. Depuis Ezra jusqu'au VIe siècle de l'ère chrétienne, soit pendant à peu près un millénaire, ces savoirs sont transmis oralement. Entre les 5e et 10e siècles de l'ère chrétienne, qui fut une période de dispersion du peuple juif et de fixation des communautés dans l'étendue de la diaspora, la transmission de ces savoirs s'est fragilisée. L'hébreu, en tant que langue nationale, va disparaître peu à peu pour devenir une langue sacrée et savante. Face à cette évolution de la langue et au déclin des connaissances traditionnelles, les savants vont élaborer des systèmes mnémotechniques afin de préserver les traditions de vocalisation, de découpage adéquat des textes bibliques et de leur récitation chantée. Il s'agit des maîtres de la massore, mot qui vient de l'hébreu massar, transmettre ou enseigner. On les appelle les massorettes. Ils se donnent donc pour tâche de copier et de transmettre fidèlement la tradition. Ils sont actifs dès les décennies qui suivent la destruction du second temple de Jérusalem, toujours la date de 70, donc fin du 1er siècle, jusqu'au 11e siècle. Ils assurent en Palestine et en Babylonie la fixation définitive des écrits sacrés par l'enrichissement de signes intratextuels et que l'on appelle diacritiques, c'est-à-dire qui accompagnent une lettre, donc placée au-dessus ou au-dessous, ou avant ou après, ou à l'intérieur ou autour. Ces signes sont de deux sortes et constituent deux systèmes. Le premier système de points voyelles, les lettres hébraïques, comme on l'a vu, je l'ai évoqué tout à l'heure, comme dans les autres langues sémitiques, ne sont que des consonnes. Et le système des points voyelles permet de supprimer l'ambiguïté de sens à laquelle peut prêter une écriture sans voyelles. Ce sont des petits signes qui complètent les consonnes et ont ainsi l'avantage de pouvoir être directement ajoutés au texte qui n'en comporte pas. Là, ce sont tous les signes qui ne sont pas entourés. Les petits points. Ils élaborent également un deuxième système, celui des accents, là, qui sont entourés, un par mot, qui sont destinés à uniformiser le découpage rythmique et donc la compréhension des textes. Ils vont indiquer la manière selon laquelle le texte doit être récité ou cantilé. Le chant de la cantillation n'est donc pas un chant improvisé. Il suit cette notation. Il est évident que l'élaboration de ce système à partir du 5e siècle ne signifiait pas l'invention d'une nouvelle cantillation, ni d'une nouvelle façon de vocaliser le texte ou de le découper. Ces deux systèmes ont fixé graphiquement des traditions préexistantes. L'œuvre des massorettes a donc principalement permis de stabiliser les écritures. Et le texte ainsi transmis est appelé le texte massorétique. Ce système est dit tibérien, car il a été codifié à Tibériade au Xe siècle par Aaron Ben Asher, le plus important des membres d'une dynastie de massorettes, les Ben Asher. L'histoire de la massore est une histoire très longue, on l'a vu, à peu près un millénaire, et elle n'est pas uniforme, elle a connu d'étonnement et également des conflits entre plusieurs écoles, plusieurs traditions. À la même époque que le système que vous avez vu sur la diapositive, d'autres centres ont élaboré d'autres systèmes, notamment un système qui était dit babylonien, qui était fait de lettres initiales du nom de l'accent. Un autre système encore était dit palestinien, qui lui était composé de points. Mais ces deux systèmes n'ont laissé de traces que dans quelques rares manuscrits. Car la prose des 24 livres de la Torah, de la Bible hébraïque, nécessitait un système d'accentuation beaucoup plus élaboré et subtil, capable d'unir à lui seul la ponctuation syntaxique et des formules mélodiques. C'est le système donc tibérien qui a été officiellement consacré par les autorités rabbiniques et qui va s'imposer dans toutes les communautés juives. et il reste celui qui est en usage actuellement. Alors, il est à noter que l'utilisation de signes est même beaucoup plus ancienne que l'invention du système des Ben Hacher, car on décèle déjà la présence de signes dans des manuscrits qui datent du 1er siècle avant l'ère chrétienne, les manuscrits qu'on appelle de la Mer Morte, et qui apparaissaient donc déjà avant l'ère chrétienne. Donc le système tibérien est plus sophistiqué que les deux autres et comporte 26 petits signes graphiques que l'on appelle théamim, tam au singulier, et qui signifient goût ou sens. Alors le système des théamim a pour fonction donc d'indiquer des modèles mélodiques qu'on appelle aussi neginot. Alors au niveau de la paléographie musicale, on peut relever plusieurs similitudes entre ce système des théamim et l'écriture pneumatique en usage en Occident du 9e au 13e siècle pour noter le plein chant, ce que certains appellent plus restrictivement le chant grégorien, des rituels chrétiens donc. À savoir quelques éléments en commun, une notation qu'on appelle in campo aperto, c'est-à-dire sans aucune portée musicale, également l'absence qui en découle de détermination précise des hauteurs et des rythmes, et un point commun donc, l'indication uniquement d'un mouvement mélodique, une direction. Les théamim sont donc placés au-dessus ou en dessous des mots, quelquefois à côté. Chaque mot du texte biblique est orné d'un seul signe. Ces signes sont liés à la parole, ils suivent la syntaxe avant tout grammaticale du texte, puis ils ont une influence, enfin une conséquence musicale. Ils constituent donc une notation musicale qui n'est pas stricte. Elle va générer une ponctuation. Donc une imbrication dans ce système entre les fonctions musicales et linguistiques. Comme il n'y a ni note ni intervalle, on peut qualifier ceci d'une sorte de sténographie musicale qui est destinée à réguler les successions de formules mélodiques. Donc la priorité est donnée au texte, aux dépens de la mélodie. Alors on peut diviser ces signes en deux groupes. Le premier groupe qu'on appelle disjonctif, donc comme son nom l'indique, qui marque la fin des versets, les divise également en phrases, en membres et en sous-membres de phrases, et ils sont entre eux hiérarchisés. En termes musicaux, ils s'apparenteraient à des pauses, à des silences. Et comme les pauses et les silences, il y en a un nombre assez important, comme l'équivalent qu'on peut avoir dans des textes avec les points, point, virgule, virgule, etc. Et plus le verset est étendu, plus les signes disjonctifs sont nombreux et variés. À côté de ces signes disjonctifs, les signes conjonctifs, qui servent, eux, à relier les mots à l'intérieur des divisions ou subdivisions des versets dont on vient de parler. Donc ils correspondent à des formules musicales de transition ou de liaison. Sur 26 signes, 18 sont disjonctifs et 8 sont conjonctifs. Le système permet donc, avec 26 signes, des nuances très subtiles. On retrouve d'ailleurs ces fonctions dans le système pneumatique de la musique chrétienne que j'ai abordé juste avant, que certains théoriciens divisent en neumes de pause et neumes de mouvement. Le principe en est le même, donc. Et pour conclure, les théamim sont donc multiples et disposés selon l'intérêt de la dynamique et du sens de la phrase. Les noms des théamim désignent souvent la figure qu'ils représentent, le rôle qu'ils ont dans la phrase, l'allure musicale selon qu'elle doit être ascendante ou descendante et que le mouvement indiqué doit être un arrêt temporaire ou définitif de la lecture musicale. Selon des musicologues, certains noms pourraient être une représentation graphique des signes chironomiques que vous voyez, plus anciens, mais qui se seraient maintenus. La méthode d'enseignement d'ailleurs par signes chironomiques, a précédé le système de notation et a même subsisté jusqu'à nos jours, dans certaines régions, en parallèle du système de notation. J'en reparlerai un petit peu plus tard. Lors de la lecture publique, une personne au moins doit surveiller l'exactitude des mots prononcés par le chantre. Dans certaines communautés, c'est également la cantillation qui fait l'objet d'une surveillance. Ce qu'on peut appeler un souffleur, somer en hébreu, indique les accents au chantre, s'il les oublie, à l'aide de ce système de signes de la main. Donc pour ceux qui pratiquent cette gestuelle, il s'agit d'effectuer les anciens mouvements transmis ou d'en inventer d'autres, évidemment en convenance avec le lecteur. Alors l'ensemble du système se présente souvent sous la forme appelée tables arca. Il s'agit de la suite des noms des théamim ornés de leurs propres signes. Suivant les traditions, l'ordre de présentation de ces signes peut différer. Le premier accent de la liste est généralement le zarka. C'est pour cette raison que la table porte son nom. Elle figure dans les livres de prière et les exemplaires massorétiques du Pentateuch. Les apprentis lecteurs doivent donc mémoriser la suite des théamim avec leurs mélodies, puis adapter ces mélodies au texte de la Torah. Elle est donc utilisée à des fins pédagogiques. La table Zarka sont comme des répertoires donc, de signes dont l'ordre peut varier d'une communauté à une autre.
Zarka, shofar honich segoltam, pazer gadol, talsham, azlageri. פסק רביע השופר מהופך קדמם תרק אדמין שופר הולה זקף קטון זקף גדול מערית על חתנה שנגרשים דרגת אוויר יתיב סוף פסוק.
Alors, venons-en à la cantillation proprement dite. La cantillation biblique appartient au domaine de la monodie, a cappella, si vous me permettez cette formulation musicale qui peut paraître inadaptée ici, comme elle signifie comme à la chapelle, mais qui est devenue universelle et que l'on emploie dans le domaine musical, sacré ou profane. Alors, la pratique de la monodie non accompagnée pour cette lecture solennelle va bien sûr dans l'intérêt de la compréhension du texte. Il est également non mesuré, c'est-à-dire qu'elle n'est pas soumise à une pulsation régulière, car elle suit le rythme propre des enchaînements syllabiques du texte et des accents toniques de ce texte. Alors, le tempo, lui, peut varier, mais reste toujours déterminé par la ponctuation de la phrase. Mélodiquement, la cantillation se présente sous des formes relativement simples, de deux ou trois notes, parfois un petit peu plus, voire quelques rares mélismes. Mais l'ambitus reste assez restreint, c'est-à-dire l'étendue entre la note la plus grave et la plus aiguë de la cantillation. Alors, à l'écoute donc des phrases cantillées, il n'y a pas peu de surprises. On constate qu'il n'y a pas de tentative visant à constituer une ligne mélodique. L'accent est mis sur le texte, on l'a déjà dit. Les pauses et les arrêts dérivent du texte et sa ponctuation, et elles ne suivent pas une logique mélodique. Quand une terminaison est mélismatique, elle est avant tout fonctionnelle. Elle apparaît quand on souhaite insister sur une certaine partie du texte. Donc on l'a compris, la cantillation n'est pas fondée sur des critères musicaux, mais prosodiques, prédéterminés. Alors, comme on l'a vu, les théamim ont une signification musicale comme formule mélodique non précise, ce qui laisse, en conséquence, une marge de liberté au chantre, ce que j'appelle parfois au cantillateur. Donc, en conséquence, cette interprétation des théamim a varié au cours du temps et à travers les communautés diasporiques. Il existe ainsi de nombreuses traditions d'interprétation du système tibérien. Même si les accents, les théamim, ont universellement été admis par l'ensemble des communautés juives et que la lecture précise des rouleaux de la Torah a toujours été la préoccupation de ces communautés, on constate en effet qu'il y a, de l'une à l'autre de ces communautés, des variations plus ou moins importantes dans l'interprétation de ces mêmes signes. Alors, on parle de rites distincts. Les deux principaux, dont les noms étaient évoqués tout à l'heure, sont le rite septentrional, dit Ashkenaz, et le rite méridional, séfarade. Mais ils ont de multiples dérivés. Alors, un musicologue a distingué 8 traditions principales de cantillation. Pas forcément dans l'ordre d'importance, bien sûr. Le sud de la péninsule arabe, plus précisément le Yémen, le Moyen-Orient, qui regroupe l'Iran, le Kurdistan, Géorgie et nord de l'Irak, le Proche-Orient, Grèce, Turquie, Syrie, Irak, Liban et Égypte, qu'on appelle aussi tradition séfarade de l'Est. L'Afrique du Nord, la Libye, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, les séfarades et les communautés portugaises d'Europe, qu'on appelle aussi séfarades de l'Ouest, les Ashkénazes d'Europe de l'Ouest, les pays germanophones, France, Pays-Bas et Angleterre, les Ashkénazes d'Europe de l'Est, qui est le style dominant en Israël et dans les pays anglophones. Donc, comme on a vu tout à l'heure, et M. Roten l'a dit, il n'y a pas que les séfarades et les ashkénazes. C'est beaucoup plus complexe et varié et diversifié que cela. Donc, la plupart de ces traditions connaissent des sous-traditions, avec des différences parfois importantes à l'intérieur des traditions nationales et, dans certains cas, même au niveau régional. Alors, écoutons un même verset selon plusieurs rites.
Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz.
Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz.
Bereshis oro Shomayim ve'es ho'oretz.
Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et ha'aretz.
Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et ha'aretz.
Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et ha'aretz ve'aretz ha-yedato vavo ve'choshech al pene teom.
Alors, cette variété s'accroît également quand, au sein d'une même tradition du chant du Pentateuque, il existe des lectures particulières à certains moments de l'année, comme par exemple la cantillation du passage des 10 commandements. Il est d'usage, donc, dans certaines communautés, d'utiliser à ces moments-là, pour plus de solennité dans la lecture, ce qu'on appelle le Ta'am Elyon, supérieur, par opposition au Ta'am Tarton, qui est inférieur, qui est celui utilisé pour toutes les autres péricopes de l'année. Alors, c'est un usage qui est assez répandu, mais qui n'est pas obligatoire. Il relève davantage d'usage locaux. Les passages ne sont pas forcément les mêmes d'une communauté à une autre qui utilise cette cantillation avec plus de solennité. Le nombre de versets peut également varier d'une communauté à l'autre. On va écouter un autre verset dans différentes interprétations et je vous laisse deviner lequel est le ta'am inférieur.
Anochi Adonai Elohecha Asher Otzeticha Eretz Mitzrayim Mibet Avadim.
Deuxième exemple.
Anochi Adonai Elohecha Asher otzeticha meretz mitzrayim mibet avadim.
Anochi Adonai Elohecha Asher Hotzeticha Be'eretz Mitzrayim Mibet עבדים.
אנוכי השם אלוהיך אשר עשיתיך מארץ מצרים ובית עבדים.
אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים.
Alors, en plus de ces différentes traditions, la plupart des chantres connaissent d'autres traditions d'interprétation des théamim, en plus de celles dont ils sont originaires, par goût, par curiosité, ou le plus souvent par nécessité professionnelle. Comme l'a dit M. Rotten tout à l'heure, leur parcours peut les faire passer d'une communauté à l'autre, sans que celle-ci soit du même rite liturgique. Les chantres peuvent donc être originaires de la même région que l'ensemble des fidèles, ils suivent alors le rite qui correspond à la synagogue en question. S'ils sont d'une autre tradition, ils se plient à celle de la communauté qui va les employer. Enfin, pour enrichir encore l'écoute, l'interprétation des théamim peut varier suivant la nature du texte scripturaire, c'est-à-dire soit le livre de Pentateuque, soit celui des prophètes ou hagiographes. On parle ainsi par exemple de mode du Pentateuque, qui s'applique donc évidemment à la lecture de la Torah. Alors, quand il est, la Torah, on le voit, demande bien évidemment un savoir-faire et une expérience. Le lecteur est obligé de mémoriser les signes et leur interprétation, s'il veut effectuer une cantillation correcte. La complexité du système massorétique ne peut être donc connue que par des chantres expérimentés et qui pratiquent régulièrement la lecture du texte mosaïque. Dans certaines communautés, un préposé à la lecture de la Torah, qu'on appelle Baal Koré, va être engagé à côté du ministre officiant, qui lui va assurer toutes les autres parties vocales de l'office. Alors, une telle répartition des tâches n'est pas opérée dans toutes les synagogues. La formation des cantillateurs, si on peut dire, va dépendre le plus souvent de leur origine. Le plus souvent, l'apprentissage des théamim se fait par mimétisme, en répétant les mélodies chantées par un maître au Talmud Torah, une structure d'enseignement ouverte à tous dès le plus jeune âge, dans des classes qui ne sont pas réservées spécifiquement à des chanteurs ou musiciens. Donc on apprend le Taham un après l'autre, jusqu'à connaître l'ensemble de la Tabzarka. L'apprentissage peut se faire également de père en fils ou à la synagogue en écoutant le chantre. Alors il faut noter, mais d'autres intervenants en parleront beaucoup plus, que la formation des chantres ashkénazes a, elle, bénéficié d'une certaine rationalisation par les techniques de notation occidentale, ce qui est moins le cas des chantres séfarades, et ils ont aussi une transmission qui s'est effectuée davantage au sein d'une éducation musicale beaucoup plus large. Alors, à part le lecteur de la Torah attitré d'une synagogue, une autre personne est amenée à lire un passage du rouleau, il s'agit du bar mitzvah. Alors, sa majorité religieuse, en principe 13 ans, la tradition veut que le jeune garçon remplace partiellement le chantre lors de la lecture de la Torah, plus ou moins suivant ses capacités. Alors, deux cas de figure, la plupart du temps, se présentent pour l'apprentissage de la cantillation par les bar mitzvah. Soit l'enfant suit des cours d'hébreu depuis plusieurs années et peut apprendre également au Talmud Torah les théamim, s'il s'y prend évidemment relativement tôt, soit, quand il s'y prend beaucoup plus tardivement, quelques semaines avant la cérémonie, il lui faudra apprendre la section qu'il chantera en mémorisant l'air correspondant. Alors la question de la mémoire, justement, je viens de le dire, est d'ailleurs primordiale pour la cantillation, parce que le texte de la Torah, à usage liturgique, celui qui est la source de la lecture solennelle publique dans la synagogue doit être sous forme de rouleaux, de volumènes. Ce sont des rouleaux faits de cuir, tannés ou parcheminés. On les appelle Sefer Torah, livre de la Torah. Alors sur ces rouleaux sont copiés les textes sacrés par le sopher, le scribe, et les prescriptions qui qui concerne l'écriture de la Torah, du Sefer Torah, qu'on appelle la Sofrout, compte parmi les plus nombreuses et les plus complexes. Une fois achevé, le rouleau va être lu par 5 rabbins, rabbanim, et la moindre erreur peut être fatale pour l'ensemble du rouleau, une incorrection même minime, et l'ensemble du Sefer Torah peut être considéré comme non conforme. Il va devenir inutilisable pour l'utilisation rituelle. Or, on a dit tout à l'heure que le texte qui est sur le rouleau de la Torah est dépourvu de tout signe, car les règles de l'écriture, la Sofrout, proscrivent l'adjonction de tout signe graphique supplémentaire lors de la copie. Donc la version massorétique dont on a parlé ne doit pas apparaître sur ces rouleaux, car elle donnerait, elle fixerait sur le rouleau une lecture possible, une exégèse possible, mais qui ne doit pas devenir ou être considérée comme définitive. Seules les Bibles présentées sous forme de cahier à pages, de type codex donc, pour la lecture privée ou l'étude, vont comprendre la version massorétique de référence. Et pour l'étude ou la révision qui est obligatoire d'effectuer avant de monter à la Torah, ce qu'on appelle monter à la Torah pour sa lecture, les lecteurs vont consulter un ouvrage qui contient le texte original, tel qu'il est rédigé dans le manuscrit, ainsi que la version massorétique qui est imprimée, avec sa ponctuation, ses accents, en regard de la même section. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, compte tenu de l'importance du respect du texte et des multiples difficultés que soulève la cantillation biblique, celle-ci fait l'objet d'une surveillance obligatoire. Il s'agit de vérifier si le lecteur fait une pause, et si c'est le cas, une faute, pardon, et si c'est le cas, de le faire reprendre. Alors, cette tâche incombe à tous les fidèles. On l'apercevait dans l'extrait du film au tout début. Donc, tous les fidèles qui suivent la lecture et qui, eux, suivent la lecture sur l'ouvrage contenant le texte mosaïque avec la massore, les voyelles et les signes de cantillation. Donc, le contrôle collectif doit être vigilant sur l'exactitude de la vocalisation des mots, le respect des voyelles, mais également sur celui de la conformité au théamim, au système des signes. Alors, dans un ouvrage d'un philosophe qui s'appelle Hubert Hanoun, qui s'appelle « Juif converti au judaïsme, chanson d'une enfance », j'ai relevé une petite citation que je me permets de vous lire. « Bien plus tard, je découvrirai, que la tonitruance de leur prière ne signifie pas toujours chez eux la compréhension réelle de leur sens. Non, l'essentiel pour eux réside uniquement dans le respect strict d'une gestuelle et d'une lecture collective à haute voix du texte toraïque en respectant une musique et une scansion rituellement prescrites. » Donc, cette citation m'a paru intéressante, qu'elle associe l'exigence de respecter le texte à celle de respecter sa musique. Alors, d'après la musicologue Solange Corbin, qui a étudié les cantillations chrétiennes, la cantillation est une lecture solennelle qui sacralise le moment de la lecture publique. Le revêtement musical est relativement simple, on l'a vu, et ne peut apparaître comme peu signifiant dans les définitions que vous apercevez. Mais on a vu que la cantillation juive présente une mélodie qui est stylisée. Elle n'est pas sans importance pour le chantre ni les fidèles. L'ensemble des participants aux offices, et M. Roten l'a évoqué tout à l'heure, porte une attention au rite de cantillation. L'officiant doit exécuter sa lecture dans un rite particulier en suivant l'auditoire auquel il s'adresse. C'est une question, vous l'avez dit, M. Roten, d'identité. C'est un vecteur d'identité. Alors, après avoir essayé de montrer les évolutions de la cantillation biblique, de ses origines à nos jours, marquées principalement, on l'a vu, par la multiplication des rites et des traditions d'interprétation à partir d'une source unique, je souhaiterais conclure en se demandant ce que notre époque récente lui apporte. Par quoi notre époque participe à cette évolution ? Alors, je répondrai brièvement deux choses. La première, c'est les nouveaux moyens de communication. Alors, à notre époque de diffusion des savoirs par les nouvelles technologies, on peut relever l'existence d'outils d'apprentissage nouveaux, si on peut dire, de la cantillation. par Internet et des sites, des applications même sur smartphone ou tablette. Et j'ai mis en capture d'écran deux applications qui existent, donc Itrop, qui font entendre donc des signes massorétiques, comme le faisaient évidemment les anciennes, j'allais dire, méthodes sur vinyle ou CD. Là, ici, une autre application qui s'appelle Tahamim, donc sur le même principe que vous pouvez télécharger sur vos téléphones. Et il y a même des cantillations téléchargeables sur iTunes. Ah, ça, c'est juste un anachronisme. Je voulais conclure avec une autre évolution qui me semble beaucoup plus intéressante et qui permettra de répondre en partie à la question qui était posée à M. Rotten tout à l'heure et qui était simplement évoquée dans l'extrait de film tout à l'heure. Il s'agit des femmes. Alors, je veux parler des femmes rabbins et des femmes chantres qui prennent la parole et le chant ouvertement dans certaines communautés du judaïsme dit réformé. Alors, cette pratique féminine liturgique, si elle a été attestée historiquement, n'est que très rare. Et dans le judaïsme traditionnel ou orthodoxe, elle n'a pas sa place. Quelques femmes rabbins et quelques femmes chantres existent dans des courants qu'on appelle plutôt progressistes. Mais on a vu, je ne sais pas si vous vous en souvenez dans les actualités, il y a un petit peu plus d'un an, à Jérusalem, que leur reconnaissance, plus générale, par les autres courants, était très compliquée. Et je me permets de relever qu'ici, c'était un petit peu amusant qu'au même moment, en France, c'était vraiment la même période, certains militaient pour le mariage ouvert à tous. Et là-bas, elle, c'était plutôt, permettez ce petit jeu de mots, la liturgie pour tous. Alors évidemment, c'est un combat d'un tout autre genre, dans les deux sens du terme genre. Donc. Comme j'ai vu qu'on avait passé un petit peu de temps supplémentaire dans la pause, j'ai parlé un peu plus vite que ce que je pensais faire et enlevé certaines choses, et je crois que je suis un petit peu en avance. Mais si ça arrange tout le monde...
Merci de nous avoir montré d'une part l'évolution et puis le contraste entre l'écriture ancienne et une écriture plus contemporaine qu'on peut dire datée d'après l'établissement du système dodécaphonique. Est-ce que si on écrit maintenant une musique...
Ah. Oui, moi non plus je n'entends pas exactement tous les mots.
Oui. Les derniers exemples de lignes mélodiques que vous avez montrées,
oui,
sont basés sur le système établi dodécaphonique de la gamme moderne. Est-ce, oui, que maintenant, si on écrit ou on met à jour des mélodies plus anciennes, on les écrit de cette façon-là, ou on utilise encore les caractères anciens ?
Les caractères anciens, c'est-à-dire...
Les premiers que vous avez montrés, les caractères...
Ah oui, non, mais l'un ne remplace pas l'autre. Ce que vous avez vu en notation occidentale, en note... c'est un relevé que j'ai fait moi, mais qui n'est pas, qui n'apparaît nulle part dans les ouvrages.
Dans la tradition.
Dans la tradition, non. Non, c'est pas. Normalement, c'est pas par ce biais-là qu'on apprend. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est par la table zarka et la mémorisation signe par signe, et après l'application de ces mélodies sur le texte. Mais on utilise rarement, très très rarement, une partition sur laquelle serait retranscrite la correspondance de chaque signe avec son son équivalent en notation. Certains peuvent le faire si on veut apprendre ça et qu'on est musicien à la base, voilà, on peut le faire. Mais ce n'est pas par ce biais-là que ça se fait habituellement.
Oui, vous, voilà, pouvez le faire, un spécialiste peut le faire, mais la notation moderne est accessible à peu près à tout le monde. Et pour l'ancienne, il faut une érudition... Et beaucoup de...
Ah oui, il y a beaucoup plus de gens qui connaissent. Ah oui, il y a beaucoup plus de gens qui connaissent le solfège que les théamimes, ça c'est sûr.
Exactement.
Ah oui, ça.
Merci.
Oui. Ça permet une diffusion, oui.
Voilà, je suis assez ignorante de tout ça, mais une question me vient. Quand vous avez parlé des deux versions, attends, je vais mettre mes lunettes, non ? La version massorétique et la version originelle, si j'ai bien compris, dans l'hébreu, il n'y a que des consonnes, et quand on y met des voyelles, ça va donner une certaine interprétation du texte.
Oui.
Voilà. Donc, comment est choisi ? Parce que, du coup, on pourrait dire que dans la version massorétique, comment choisir l'interprétation ? Comment est-ce qu'elle est choisie, puisqu'il y en a de multiples ? Ah ben, je ne sais pas si c'est clair, ce que je demande.
Si, je crois avoir compris. C'est pas qu'elle a été choisie, c'est une tradition qui a été fixée à un moment donné.
D'accord.
Voilà, par une école, par des savants qui interprétaient, qui lisaient ce texte, le texte d'une certaine façon, qu'ils vocalisaient d'une certaine façon, qu'ils le découpaient de cette façon-là, et qu'ils l'ont fixé.
D'accord, donc c'est fixé, il n'y a pas plusieurs interprétations possibles quand on est dans la version...
Si. Différentes interprétations sont possibles, différents découpages sont toujours possibles, pas forcément à l'infini, bien sûr, mais je dis que la version massorétique, elle, a fixé une tradition d'interprétation dans la lecture et également dans sa cantillation.
D'accord.
Mais il n'empêche que même si elle a été universellement admise... tous les samedis, on doit lire sur la version qui n'est pas massorétique.
Dans la manière de chanter, en fait, vous nous avez montré les différentes traditions, et à l'oreille, on a l'impression que certaines, enfin notamment pour la dernière, le chanteur marocain,
oui.
Avait interprété ça en... Enfin, je ne vais pas dire en sautant des mots, mais en les avalant.
Oui, ça faisait un peu expéditif. Mais c'est justement ce que c'était justement pour illustrer les deux types de cantillation, solennelle ou alors beaucoup plus rapide, qui est utilisée la plupart du temps. Et j'avais fait écouter les précédents parce que eux avaient ce qu'on appelle le Taam Elyon supérieur. Pour certains passages, dont celui-ci, qui est celui de la lecture des 10 paroles, on appelle plus communément les 10 commandements, qui là, pour plus de sonalité, on utilise ce taam dit supérieur, avec plus emphase, prend plus son temps. Et le cantillateur, enfin le chanteur que j'avais enregistré, m'avait aussi enregistré une version plus rapide, qui est le taam tarton inférieur. Donc c'est pour ça que ça paraît, c'était beaucoup plus court. Mais tous les mots y étaient.
Je voudrais juste compléter par rapport à la question de monsieur sur l'écriture, la notation musicale, ce que vient de dire Jean-Philippe Pamard, vous explique pourquoi, en fin de compte, on ne peut pas noter, enfin c'est pas fiable la notation musicale, l'instrumentale, je veux dire notation occidentale, dans le sens où le lecteur peut, comme il l'a dit très bien, il n'y a pas de rythme, il peut accélérer selon les besoins, si on est un petit peu en retard ou s'il faut avancer. Alors on prend le style beaucoup plus rapide, on respecte toujours les accents, mais je veux dire, les rythmes vont changer. Et ça, la tradition orale permet justement cette souplesse que ne permet pas la notation musicale occidentale. Voilà pourquoi ça relève toujours de la tradition orale.